Bonjour, alors on est donc très ravi de pouvoir discuter avec Camille Moulin-Dupré autour du voleur d'estampes.
Moi aussi.
Bonjour Camille, merci
bonjour.
De répondre à quelques questions.
Donc, merci pour l'invitation.
Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement et nous dire comment vous en êtes arrivé à la BD?
Alors, je vais déjà me présenter, parce que si je dois raconter quand je suis arrivé à la BD, ça va être très 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 long. Je m'appelle Camille Moulin-Dupré, j'ai 34 ans. J'ai fait des études de beaux-arts. Quand j'ai fini mes études, j'ai fait directement un court-métrage d'animation qui s'appelle Allons-y Alonso, qui était autour de la filmographie de Belmondo, qui était raconté comme du Tintin. Et après ça, j'ai un peu bossé dans le jeu vidéo en tant que directeur artistique. Et depuis, je fais du manga, on va dire. Parce que je suis édité chez Glénat Manga, mais enfin, je suis auteur de bande dessinée. Moi, je me considère comme auteur-réalisateur. Et donc, Le voleur d'estampes est mon premier livre. Voilà.
Et donc,
comment je suis arrivé à la bande dessinée?
Un peu à la bande dessinée. Quel a été le déclic?
C'est des milliers de déclics. Moi, c'est surtout l'animation japonaise qui me plaît énormément. Et j'avais très envie de raconter quelque chose autour de l'estampe japonaise. Et j'aime beaucoup la narration en case de bande dessinée, tout simplement. Que j'expérimente en film ou que j'expérimente en livre, parce que ce livre, enfin, Le voleur d'estampes, l'idée c'était de mélanger estampes japonaises et bande dessinée. Mais là, je simplifie en disant mélanger, parce qu'en fait, quand on regarde le livre, tout est de l'estampe japonaise. J'ai repris tous les codes de l'estampe japonaise à la base. Mais c'est en regardant du Samurai Champloo et puis du Cowboy Bebop et Paranoia Agent de Watanabe et de Satoshi Kon que j'ai vraiment eu envie d'être réalisateur de films d'animation, pouvoir raconter des histoires. Et le manga, moi je lis des mangas depuis que je suis gosse. Ranma 1,5, je les ai achetés en import à Juku. Je me suis construit autour de la culture animée, manga, mais pas que le Club Dorothée, pas que ce que les médias français nous donnaient, en allant la chercher nous-mêmes. J'aime bien la culture de l'import, quoi. Voilà.
Et donc c'est d'où le fait que c'est un manga et plutôt dans l'idée. Alors au niveau de la conception, est-ce que pour vous c'est plutôt un manga ou vraiment une bande dessinée de manière un peu générale, ou ça se rapproche un peu aussi peut-être du comics sur certains aspects, ou vraiment très manga avec l'influence des estampes notamment?
Ma question c'est, est-ce que tu as beaucoup de questions après, ou est-ce que je peux... Alors je vais en parler longuement. C'est plein de facteurs qui font que j'ai voulu le sortir, à la fois m'intéresser à l'estampe, à la fois le sortir en livre, à la fois le sortir en film. Au tout début, il fallait que je crée un deuxième court-métrage d'animation. J'avais fait quelque chose autour de Tintin et Hergé. Je me suis dit, on va changer graphiquement, on va passer à un autre style. Puis on va essayer de raconter un truc qui parle un peu plus du Japon, parce que j'aimerais bien m'adresser à ma génération. Voilà, tout simplement. Je suis allé au Japon faire un voyage à Tokyo qui m'a fortement marqué. J'ai acheté énormément de bouquins et j'ai aussi acheté des estampes. Et assez tôt, je me suis dit, si, prochain projet que je fais un truc transmédia. Ça veut dire que moi, je bosse sur Photoshop, sur Palette Graphique. Tous les dessins que je vais faire, je pourrais les animer, je pourrais les imprimer. Donc faire un film, une vidéo, ou faire un livre, ou même aussi faire quelque chose sur tablette numérique. Comme je savais que je proposais quelque chose de très bizarre, d'inédit, on va dire, parce que je peux pas dire le mot original, moi je recopie le style de l'estampe japonaise d'Okuzai, d'Harunobu et d'Hiroshige, mais je sais que proposer une bande dessinée en estampe japonaise, je suis un des seuls à le faire. Il fallait, quand je suis allé voir les éditeurs, j'ai proposé plusieurs maquettes différentes. Il y avait des versions couleur, des versions noir et blanc. Il y avait même des versions, tu vois, en valeur de bleu, comme les gros tomes. Enfin, quand tu achètes des gros mangas japonais, les magazines, ils impriment dans du mauvais encre
du mauvais papier
bleu.
Avec, oui.
J'avais testé plusieurs formats et tout. Et donc j'ai eu la chance que Glénat Manga accepte le projet, ce qui m'arrangeait parce que quand tu proposes au CNC, quand tu fais du court-métrage d'animation, tu passes au CNC en commission, souvent j'avais le droit à c'est trop japonais, c'est trop animé, c'est trop manga, parce que les gens qui sont en commission ne sont pas de notre génération, sont des générations au-dessus, voilà. Là au moins quand tu rentres chez Glénat Manga, ils vont pas te dire que c'est trop japonais ou que c'est trop manga, ou que voilà, ça rentrait dedans. Donc j'étais très content. Mais redis-moi un peu, redis-moi ta question, parce que je peux peut-être...
Donc en fait, c'était sur le... J'ai un peu oublié ma question.
Oui, oui.
Mais c'était autour de... Donc si c'était plutôt voilà, aller vers le manga ou au niveau du format, en fait.
Ouais,
parce qu'il y a du noir et blanc aussi.
Voilà, et alors, il y a un livre qui est assez important pour moi, c'est « 1000 ans de manga » de Brigitte Koyama Richard. Mm-hmm. C'est un beau livre qui racontait toutes les traditions graphiques japonaise, et de montrer que l'envie de faire de la bande dessinée, enfin des récits de bande dessinée, ça existe depuis 1000 ans. Je suis fan du graphisme japonais, vraiment, je trouve que c'est le plus beau trait au monde. Je pense que les Japonais sont, et c'est la civilisation qui maîtrise le mieux la manière de raconter l'histoire avec du trait, ou de faire des dessins au trait. Et quand on regarde les estampes, nous on les voit comme des choses qui sont... Nous occidentaux, on a l'habitude que les estampes, ça soit accroché au mur dans des musées. Mais à la base, c'est des livres. Et c'est pour ça que j'ai repris la marge centrale. Et je me suis dit, ils ont déjà de la case, c'est des livres. Et j'ai vu aussi un manga qui m'a pas mal touché, c'était Le Samouraï Bambou de Taio Matsumoto, celui qui a fait Amer Béton,
oui,
Sunny.
Oui.
Celui-là, je l'avais trouvé à Junku, je l'ai acheté. Je bredouille du japonais, mais je comprends pas. Des fois, j'achète des mangas juste parce que graphiquement, ça a un impact sur moi. Et ça racontait l'histoire qui se passait dans l'ère Edo. Et je me suis dit, on va essayer de pousser le truc un peu plus loin, de raconter une histoire qui se passerait dans le Japon du 19e siècle, dans cet univers-là, qui est un univers que j'aime beaucoup depuis très 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 longtemps, depuis que je suis gosse. Et comme il y a des cases, tu regardes l'estampe, en fait, tu vois qu'il y a des parallèles entre... T'as des cases, t'as du texte, t'as... Ah, je m'exprime mal. Quand tu regardes mon bouquin, les cases... C'est pas moi qui les ai inventés pour faire plus manga, ça existait déjà. Et pour moi, je trouve qu'il y a un parallèle avec le manga qui existe. Donc, si je voulais un format, j'étais très content d'être chez Glénat Manga pour avoir un format manga, parce que ça pouvait montrer que, pour moi, il y a une sorte de boucle entre l'estampe et le manga.
Voilà. Bah c'est, enfin, l'ancêtre du manga, c'est un peu l'estampe aussi, donc c'est la boucle est bouclée un peu.
Alors. Moi j'ai tendance à penser ça, mais les fans du manga vont dire non, c'est 45, c'est les Américains et tout. Donc, parce que j'ai participé à l'université d'été du manga à Angoulême, et j'ai le droit à des vraies critiques de manga qui me disent que l'estampe et le manga c'est deux choses bien différentes. Soit, moi je respecte le manga en tant que manga, l'animé, mais je voulais montrer qu'il y avait des croisements.
Il y a des croisements, bien
et
sûr.
Et je voulais aussi, c'est bête, mais. Des fois, on va voir des expositions d'artistes qui ont 100, ça fait 150 ans, 200 ans, 300 ans. On trouve ça génial, on trouve ça hyper moderne et on n'en fait rien. Et je trouve ça dommage. Et là, je me suis dit, bah, le trait d'Harunobu, c'est tous mes personnages féminins et même mon voleur, ça reprend le graphisme d'Harunobu. C'est un style que je trouve super beau, sublime. Mon père a acheté des estampes quand j'étais gamin, donc depuis que j'ai 6 ans, j'en vois. Et je trouve que c'est hyper rare. J'avais juste envie qu'on le voit un peu plus actuellement. Et puis, c'est bête, mais j'ai juste envie de partager ma passion pour l'estampe avec les gens.
Bah, c'est vrai qu'au niveau du graphisme, donc après, je pense que quand on apprécie un peu les estampes, on connaît un petit peu, c'est foisonnant. On retrouve les détails, on voit les références aux différents... à différents artistes, oui, je crois avoir un repas, il y avait Hiroshige,
Okusai,
et puis il y a un autre, mais j'ai plus le nom en tête, hein, mais oui, sans doute d'autres aussi, mais il y en a plein, mais ce qu'il y a d'impressionnant, c'est on a vraiment l'impression d'avoir des estampes sous les yeux, et d'en retrouver des morceaux, et de les avoir,
Alors c'est exactement comme ça que ça a été conçu, et même comme ça que ça a été construit. Ça a été pensé qu'il fallait que le lecteur... À chaque case, il ait la sensation de regarder de l'estampe japonaise. Et je pense que s'il y a S'il y a une case qui marche pas, ça casse le truc. Donc je me suis vraiment cassé la tête. Pour être le plus précis possible, je me suis hyper documenté, ultra documenté. Mon père avait des bouquins. J'avais des bouquins. J'ai acheté des bouquins au Japon. Je vais à la Maison de la Culture du Japon. Ils ont une bibliothèque qui est géniale. Allez faire un tour si vous êtes fan des stamps. Mais même juste si vous aimez un peu le Japon, la bibliothèque japonaise. Enfin, il y a des manuscrits que vous trouverez nulle part ailleurs, quoi. En France, bien évidemment. Et du coup, je m'emballe. Et... Ouais, alors comment ça a été construit? L'idée, c'était que dès que je savais pas. Dès qu'il y avait un détail, un objet que je ne savais pas quoi faire, pas comment dessiner, plutôt que de me l'interpréter à ma sauce, je regardais comment c'était fait, comment les maîtres de l'estampe faisaient. Je regardais, par exemple, les poses de main. Quand ma fille du gouverneur me fume de l'opium, je me suis dit, mais comment elle va faire pour allumer sa pipe? Donc j'ai fait des recherches, savoir comment étaient les boîtes à opium, comment étaient les tabatières, comment étaient les briquets, voilà. Parce que je voulais proposer de l'exotisme et un peu de voyage pour le lecteur, qu'ils connaissent la culture japonaise ou qu'ils ne la connaissent pas. Je voulais que ça soit crédible. Et... Quand tu t'attaches à Hokusai, Hiroshige, ils ont très bien dépeint la période dans laquelle ils vivaient. Donc c'était de fabuleuse documentation. Je me disais, si je reproduis des kimonos, mon forgeron, j'ai regardé comment étaient les forgerons, des choses comme ça, je me suis dit, ça va sembler crédible. Si jamais un japonais tombe dessus, il va... J'avais très peur qu'un japonais tombe sur mon livre en disant genre non mais il a fait n'importe quoi. Voilà, donc fait que je sois le plus précis possible.
C'est une plongée dans l'époque d'Edo en fait.
Alors ouais, pour le coup on dit beaucoup que c'est Edo. Ça serait la période juste à la fin d'Edo quand les Européens sont arrivés.
Donc Bakumatsu,
Meiji. C'est la com qui a décidé de dire le mot Edo parce que ça parle plus aux gens. Après, je voulais pas. J'en profite pour dire. Je voulais pas faire un truc qui soit ultra geek, que pour les connaisseurs du Japon. Je voulais, au contraire, inviter les gens, s'ils ont un peu de référence pour le Japon, leur montrer que je peux leur montrer d'autres choses aussi.
Il y a un côté découverte.
Ouais, et moi j'ai pris un pied fou à. Je me suis intéressé à l'histoire, je passe beaucoup de temps sur Wikipédia, enfin, je me documente énormément. J'essaie d'être le plus précis possible parce que je pense que les. Quand on fait n'importe quelle production en image, il faut être sérieux. Et voilà, quoi, proposer un truc crédible au lecteur.
Par rapport à l'aspect, il y a un petit côté fantastique aussi. Donc je trouve que c'est mis aussi au niveau de la forme, parce qu'il y a des pages noires et blanches, en noir et blanc, sur fond noir et sur fond blanc qui succèdent.
Ouais.
Donc le jour, la nuit.
Ouais.
Il y a le rêve aussi, avec donc la fille du gouverneur qui fume de l'opium.
Fume de l'opium, ouais.
Et est-ce que c'était évident au départ pour vous à ce niveau-là? Est-ce que cet aspect fantastique était prévu au début? Ou est-ce qu'il est, il s'est imposé avec la création?
Les deux. J'avais très envie que ma fille, donc mon personnage principal, enfin secondaire, je voulais qu'elle ait des cauchemars, qu'elle ait des visions prémonitoires. Et l'opium était une bonne manière d'introduire. En plus, l'opium, à la fois, ça permet de dire qu'elle est droguée, mais l'opium, c'est un peu exotique aussi. Il y a des parfums qui s'appellent opium. C'est pas, il n'y aurait pas des parfums qui s'appellent enfin, bon, d'autres types de drogue. Bref. Le Tengu, pour le fantastique, donc le Tengu, c'est ce monstre, mi-homme, mi-corbeau, cette espèce d'aspect légendaire qui fait un peu l'ouverture du livre. Si les gens regardent la quatrième de couverture, ils le verront. Lui, c'est le tout dernier personnage que j'ai ajouté dans l'histoire, vraiment à la toute fin, et c'est probablement celui dont je suis le plus fier, parce qu'il réussit à mélanger, il donne un aspect légendaire à mon histoire. Donc j'explique, un Tengu serait une sorte pas de gobelin mais de croque-mitaine, un être mi-homme mi-corbeau qui est toujours caché, qui fait des mauvais coups aux gens, dès qu'on a le dos tourné il surgit, et je trouvais que ça marchait vraiment bien avec le personnage du voleur, quoi. C'était adapté. Puis ça permet de donner un côté un peu onirique qu'on trouve déjà dans l'estampe. Et le côté négatif, parce que les cauchemars, les traits sont blancs sur fond noir, ça fait penser aussi un peu aux laques japonaises.
Oui.
Ça me permettait de raconter un peu plus du style traditionnel japonais. Et pour être très honnête, je me suis basé sur une armure de samouraï qui a été exposée au Quai Branly, que j'avais trouvée vraiment super belle, qui a été exposée il y a 2-3 ans. Le fan des chevaliers du zodiaque, voilà, ça me parlait.
Et donc du coup c'est l'armure qui apparaît à un moment, enfin qu'on voit apparaître.
Bah là, on spoil un peu, mais au début c'est censé être une créature légendaire, puis on va se rendre compte que c'est une armure, quoi. C'est ça qui était un peu rigolo. Mais ça permet aussi de. Je voulais. Parler en estampe japonaise permet d'avoir un côté un peu conte. On n'est pas obligé d'être que dans le réalisme. Depuis le début, je voulais que mon voleur. Puisse faire des sauts de plus en plus extraordinaires. J'essaie que dans le livre ça aille crescendo. On se rend compte que c'est un ninja qui court sur les toits. Au bout d'un moment, bon, à la fin, c'est comme s'il volait, quoi, dans les airs. Je trouvais ça pas mal. J'aime bien les films d'histoire de fantômes chinois ou choses comme ça. J'avais très très envie de raconter une ambiance comme ça. Et c'est bête, mais c'est pas évident quand t'es un auteur français, déjà de pouvoir le proposer à un éditeur et de le proposer au public. Donc il fallait que j'aie un style graphique hyper carré, plus otaku que les otaku, quoi. Vraiment très très précis, parce que sinon, je pense que ça n'aurait pas marché. Enfin, il fallait que ça soit extrême, quoi. Il fallait que ça soit très sincère, il fallait pas que ça soit tiède.
Donc en fait, au final, on a un manga qui font, enfin, de mon point de vue, fonctionne parfaitement avec tous ces éléments et ces influences qui se mélangent. Et donc là, on a un volume 1, il y a un volume 2,
Deux.
et donc c'est prévu pour être un diptyque.
Oui, c'est prévu pour être un diptyque. Après, ça dépendra de l'éditeur. Moi, j'aimerais bien pouvoir raconter d'autres histoires dans le même univers. Parce que j'ai une technique particulière de création, c'est que tous les décors que je crée, je les réutilise d'une case à l'autre. Je travaille sur ordinateur, donc je commence à avoir un fond gigantesque d'images que j'aurais pouvoir réutiliser. L'histoire a été pensée comme un diptyque. Bon, moi j'imaginais même que ça pouvait être un triptyque, mais il se trouve qu'on va le faire en 2 tomes, c'est plus simple. Que je parle un peu plus du tome 2. Alors le tome 2, dans le tome 2, il y aura. L'histoire va être beaucoup plus dense. Il va y avoir beaucoup plus d'action. Vraiment plus d'action. Là pour les fans d'actu SF, ça va peut-être leur plaire plus, quoi. Le voleur va faire un casse assez grandiose. Ça va se passer dans le temple qui est dessiné à la toute fin du livre. Il va y avoir beaucoup plus de cauchemars. Ça s'ouvre sur un cauchemar qui dure 14 pages. Il y en aura d'autres. Je veux une scène d'action assez gigantesque qui va faire plusieurs dizaines de pages. Et surtout, il y a plein de personnages qui sont montrés dans le tome 1 qui ont des rôles très très secondaires, très mineurs, qui vont avoir vraiment des rôles majeurs.
D'accord. Donc ils n'apparaissent plus, ils sont pas là par hasard.
Voilà. Mais même. Bon, là pour le moment, j'attendrai la sortie du tome 2, mais je conseille aux gens de relire le tome 1 parce qu'il y a des détails et des choses qu'ils pensent que c'est mineur qui en fait ont des importances assez primordiales, enfin, grande importance, quoi.
Et donc, un dernier mot sur les personnages, justement. Donc, ils apparaissent en fait, enfin, ils sont pas de nom en fait, ils sont
ouais.
Liés à
c'est
leur
voulu,
fonction, c'est voulu.
Ouais, ces archétypes. Bon, alors c'est voulu. C'est bête, je savais pas quel nom leur donner. Et puis d'un coup, si je leur donnais des noms, ça allait tout de suite les donner. Ça allait être des personnages de fiction dans un contexte historique. Tu vois le problème un peu. Si mon gouverneur, c'était le nom d'un. Est-ce qu'il fallait que je trouve le nom d'un vrai seigneur ayant existé ou que
Un
j'imaginais?
nom de fiction, là, ça laisse un
Voilà.
peu le. Justement, le.
Donc, bah, on dit pas.
Ça laisse le doute
Ça
aussi.
laisse le doute, ça fait un flou. Mais non, mais c'est plutôt aussi que ça peut toucher un public un peu plus large. Et puis, moi, j'aime bien les histoires de héros, type à la Zelda. Link, il a un nom, mais c'est le héros. Zelda, c'est la princesse. Ganon, c'est le méchant. J'aime bien les récits comme ça, avec des archétypes. Ouais, pour le coup, ça pouvait permettre à un public plus large, parce que je m'en suis rendu compte en dédicace, je touche toutes les tranches d'âge, vraiment. Il y a pas mal de personnes âgées, des personnes qui ont 40, 50 ans, mais 70 ans, 80 ans, 95 ans, qui eux ne connaissent rien en manga, même en bande dessinée, mais qui sont fans d'Estampes et qui aiment, enfin qui ont acheté mon livre, qui trouvent ça très beau et qui même apprécient. Donc c'est une manière de. C'est pas une manière tiède de froisser personne. Puis, par contre, je voulais qu'on puisse s'attacher au personnage, et c'est pour ça que j'ai utilisé le principe des pensées. En fait, le jeune homme au foulard, enfin le voleur, jeune homme au foulard, il parle quasiment jamais si on regarde dans mon
C'est
livre. Mais
vrai.
on est beaucoup dans ses pensées. Là, comme figure, je me suis articulé sur Dexter. Enfin, ça parle pas du tout de la même chose, mais
Effectivement.
dans l'attachement au personnage, voilà. Je voulais qu'on rentre un peu dans la tête de mes deux héros, de la fille du gouverneur et du voleur, comme ça. Et du coup, j'ai essayé de faire attention à ce qu'il y ait certaines pensées, un lecteur pourrait les avoir en tête aussi. Et du coup, il n'a pas besoin de connaître le nom du personnage pour essayer de ressentir la même chose que lui. Mais bon, ça, après, j'ai ce lecteur, s'il a envie de s'attacher au personnage, voilà,
Libre à lui.
libre à lui.
Et donc, pour terminer, quels sont vos projets éventuellement dehors aussi du voleur d'estampes, donc la suite, et sinon.
Projet. Bah, j'avoue que là, en ce moment, je suis quand même vachement dans le tome 2, donc je fais une à deux pages par jour, donc ça prend quand même beaucoup, beaucoup de temps. On a la fin. Je suis aussi réalisateur de films d'animation, donc j'ai envie de faire un court-métrage qui mélangerait films live et animation autour de la culture animée et manga. Il n'est pas impossible que je refasse 2-3 trucs en jeu vidéo, mais sinon j'ai un projet de shonen, mais là c'est toujours pareil, ce serait culture animée, jeux vidéo, d'histoires de gamins qui se combattent contre des monstres qu'ils ont créés en les dessinant. Mais il n'est pas du tout impossible que je fasse un polar hard-boiled, très comics américain. Voilà. Là, c'était l'occasion de faire un truc très 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 japonais, une œuvre très japonaise. Il n'est pas impossible que je m'intéresse à d'autres styles graphiques. J'ai aussi un projet autour de l'Iliade et l'Odyssée que j'aimerais faire. Voilà.
Très bien. Merci beaucoup pour toutes ces réponses et au plaisir de vous lire
Ah
dans la
ben.
suite du voleur d'estampes, déjà. Merci.
Merci. Est-ce que je peux te redire?